Vous écoutez Ainsi soit-elle. Bonjour tout le monde, bienvenue à Ainsi soit-elle, votre émission féministe libertaire favorite. Vous êtes en compagnie d'Hélène et d'Evelyne. Bonjour Evelyne.
Bonjour Hélène.
Alors aujourd'hui, une émission tout en nouvelles agréables et moins agréables. Agréable car on fête le 4e anniversaire de l'AJT. On va d'ailleurs avoir l'occasion de s'entretenir avec Evelyne sur le sujet.
Oui. Effectivement, j'ai mon double chapeau ce soir.
Restez à l'écoute pour en savoir plus. Et moi, de mon côté, je vais vous parler, en fait, oui, de nouvelles un petit peu moins réjouissantes, mais quand même auxquelles on n'a pas le choix de s'intéresser, soit, entre autres, le viol massif de femmes et d'hommes en République démocratique du Congo. Également, on va se pencher sur le cas d'une bavure, en fait plus qu'une bavure, une équipe de GI américains qui tuait des civils afghans pour s'amuser. Et une autre nouvelle, je garde le punch. Et aussi, on finit toujours avec notre calendrier militant. Donc, c'est ce qu'on vous propose pour aujourd'hui. On va aller tout de suite en musique avec une chanteuse que j'adore, Lauryn Hill, et la chanson Freedom Time. Oh Seigneur, non, ce n'est pas Freedom Time. Alors, pendant que je cherche le bon CD, qui est sûrement la 2, Evelyne, tant qu'à s'être trompée. OK, donc on va dans le fond. Oui.
Ben, si tu mets la 5, en tout cas, ça va être le tigre, la chanson Well, Well, Well.
C'est ça qu'on va faire tout de suite.
And you
les ondes de CKIA FM, vous écoutez Ainsi Squat-elle. C'était la pièce Well, Well, Well du groupe Le Tigre. Et on enchaîne avec un bloc actualité des petites nouvelles internationales avec Hélène.
Oui, absolument. Merci Evelyne de me rattraper au vol. Donc, j'hésite entre mes deux nouvelles internationales puisqu'elles sont toutes les deux assez dévastatrices. Mais commençons avec les viols massifs en République démocratique du Congo. Donc, dans le fond, le grand titre là-dessus, parce que c'est un sujet dont on a abondamment parlé l'année dernière à Ainsi Squat-elle. Entre autres, Hélène Vallière nous avait fait beaucoup de topo là-dessus. Mais ce qui m'amène à vous en parler aujourd'hui, c'est que tout récemment, l'ONU a admis son échec, donc l'échec de l'action des casques bleus en République démocratique du Congo. Donc, pour vous mettre en contexte, d'abord, entre le 30 juillet et le 3 août dernier, il y a plus de 500 femmes de l'Est du Congo qui ont vécu l'horreur, donc qui ont été violées. Des rebelles armés ont envahi leur village, violé toutes celles qui avaient plus de 13 ans. Et ça, dans le fond, sans que les casques bleus de l'ONU, basés dans la région, ne viennent à la rescousse, n'interviennent. Et donc, c'est un échec que dit regretter aujourd'hui la direction de l'ONU. En fait, c'est Atul Kar, qui est le secrétaire général adjoint de l'ONU, qui revient tout juste d'une mission en République démocratique du Congo, où il a pu, en fait, faire des entrevues, donc recueillir les témoignages de différentes victimes. Et il a fait son mea culpa mardi dernier, au nom des Nations Unies. Donc, c'est pourquoi ça s'est retrouvé dans les manchettes cette semaine. Selon lui, en fait, les actions inadéquates et l'échec des casques bleus ont eu pour résultat le déferlement de la violence contre la population civile. Et je cite, « Envoyé pour enquêter sur 242 viols qui ont eu lieu à Louvangui, un village situé à tout juste 30 km d'une base des casques bleus, il a pu constater, M. Carr, qu'au moins 267 autres viols ont été perpétrés dans l'est du pays, ainsi que dans d'autres régions du nord et du sud du Kivu. » Dans le village de Miki, notamment, il y a 21 fillettes de 7 à 15 ans qui ont témoigné, 6 hommes aussi, donc qui ont tous été violés par des rebelles armés. Certaines des victimes ont rapporté avoir été violées par des groupes de 2 à 6 hommes. Plusieurs des agressions avaient lieu, évidemment, dans les maisons ou sur la place publique, donc devant les yeux des familles, dans le fond, des maris, des enfants en pleurs, etc. Vous imaginez les scènes, c'est assez indescriptible à imaginer. Mais ça s'est bien passé. Ce qu'il faut remettre en contexte aussi, c'est que les villageois et les villageoises de l'Est du Congo, Kinshasa, ils sont coupés du monde, sans accès à un réseau de téléphone cellulaire, donc c'était difficile pour eux d'entrer en contact avec les casques bleus. Et pourtant, le 30 juillet, la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, donc le MONUSCO, a reçu un courriel l'avertissant du début des violences. Mais ça a quand même pris 10 jours avant que les casques bleus réagissent. Donc, en 10 jours, vous imaginez qu'à 2 à 6 hommes, on a le temps d'en violer des personnes. Donc, en ce moment, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu le mea culpa de l'ONU, oui, mais je veux pas juste parler de l'ONU, je veux parler des organisations internationales un petit peu plus critiques, puis du mot qu'elles ont à dire là-dessus. Donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on tente de traduire en justice les coupables, les personnes qui ont perpétré les viols. Entre autres, M. Carr a demandé au Conseil de sécurité d'imposer des sanctions contre les chefs des Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui est un des groupes Hutu rwandais qui a vraiment semé la terreur au Congo-Kinshasa et à qui une partie des viols est attribuée. Il y a aussi les rebelles Mémé congolais qui ont pris part, c'est connu, là, aux exactions. À ce jour, par contre, juste pour vous donner une idée de la lenteur des processus juridiques, il y a seulement 30 rebelles qui se sont rendus aux autorités ou qui ont été arrêtés en lien avec les récents viols. Donc, j'en arrive justement à un point de vue plus critique, soit celui de Human Rights Watch, qui, dans le fond, disait que, dans le fond, le mea culpa de l'ONU, c'est bien beau les mots, mais il faut que ça se traduise en action concrète. Il y a, entre autres, une chercheure de l'Organisation internationale de défense des droits des humains qui a écrit sur des rapports sur l'utilisation du viol comme arme de guerre, et c'est Anneke van Woudenberg. Elle a dit « Les Nations unies doivent renforcer leur capacité de réaction plus rapidement. » Selon les statistiques à l'est du Congo, toujours selon elle, il n'y a pas d'amélioration en fait en ce moment. Donc, ça veut dire que pendant qu'on est en train d'essayer de traduire en justice les personnes qui ont commis des viols, mais en fait, ces viols-là continuent actuellement. Donc, c'est ça qu'elle dénonçait. Puis, elle disait dans le fond que l'année 2009 a été une des pires années pour les viols au Congo. En 9 mois, près de 9500 viols ont été rapportés. Puis là, il faut toujours garder en tête que c'est juste la pointe de l'iceberg, parce qu'on sait que c'est une des problématiques dans les cas d'agression sexuelle, c'est justement de briser le silence et les tabous, puis de le dire. Donc, s'il y a 9500 viols qui ont été rapportés, c'est ce sur quoi Annike van Woudenberg insiste, et elle dit, imaginez combien il y en a dans le fond. Donc, il y a vraiment un climat d'impunité qui règne. C'est entre autres ce qui explique toutes ces exactions-là. Pardon. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe de ce côté-là. C'est un dossier que je pense qu'on va quand même continuer à suivre cette année à InsiSquattel, parce que ça continue à bouger. Puis c'est justement important de ne pas faire juste de la nouvelle sensationnaliste et de dire « bon, il y a eu tant de viols », mais justement de suivre le dossier. Fait que c'est clair qu'on va vous revenir là-dessus. Peut-être vous rappeler dans le fond quand même en terminant que la République démocratique du Congo, en fait, est le théâtre de violence depuis la fin du génocide du Rwanda en 1994. On est en 2010 maintenant. Donc, ça fait quand même vraiment longtemps que, donc, guerre civile de 98 à 2003, la crise humanitaire qui a suivi, etc. Donc, c'est vraiment un climat super difficile, puis ça vaut la peine quand même qu'on s'y intéresse et qu'on en parle. Donc, ça, c'est ma première petite nouvelle, un peu plus longue que prévu, finalement. La deuxième, c'est aux États-Unis, mais en fait pas aux États-Unis, mais c'est nos amis américains qui s'amusent avec des civils afghans en Afghanistan. Donc, c'est 5 soldats américains qui sont accusés d'avoir délibérément tué des civils afghans choisis au hasard et qui ont conservé des restes humains comme trophées de guerre. Et c'est vraiment pas des blagues. Non, c'est ça. N'hésite pas à intervenir quand tu veux, Evelyne. Donc, selon le quotidien The Guardian, qui est un quotidien britannique, dans le fond, cette affaire-là, ça pourrait être un des cas les plus importants de crimes de guerre en Afghanistan. Il y a en ce moment 5 soldats américains qui sont accusés de meurtre avec préméditation. Donc, on va commencer par le contexte, le retour en arrière. Donc, pourquoi on sait ça d'abord? C'est qu'il y a des documents de l'armée américaine, qui ont été rendus publics la semaine dernière, et les coupables sont, il faut toujours nommer les noms, ici malheureusement on n'a pas les adresses, le sergent-chef Calvin Gibb, 25 ans, moi c'est les âges aussi qui m'ont vraiment... qui ont percuté mon imaginaire. Donc, Calvin Gibb, 25 ans, qui a élaboré un plan avec d'autres soldats, dont Jeremy Morlock, 22 ans, Adam Winfield, 22 ans, Michael Wangon, 23 ans, Andrew Holmes, 24 ans. Donc, ces soldats-là, ils étaient présents sur le sol afghan depuis juillet 2009 dans une base de la région de Kandahar. Et ils ont formé une sorte d'équipe secrète de tueurs. Et c'est vraiment pas des blagues. Le premier meurtre, il s'est produit en janvier dernier. Donc, d'après les enquêteurs, dans le fond, la première victime, c'est Golmodin, puis il a été délibérément tué par une grenade et des tirs de fusil lors d'une patrouille lorsque les GI entraient dans un village, dans le fond. Plus tard dans la journée, puis c'est là que ça a commencé, dans le fond, c'est que Jeremy Morlock aurait dit à Andrew Holmes, présent au moment des faits, que ces meurtres n'étaient qu'une distraction, que dans le fond, c'était « just for fun ». Donc, puis Morlock, à ce moment-là, après, il a comme pensé à ce qu'il venait de dire, puis il a menacé Holmes, qui était, en fait, lui était quand même son supérieur, il l'a menacé que s'il parlait, il allait avoir des menaces qui allaient être mises à exécution. Le deuxième meurtre s'est produit un mois plus tard, donc en février. C'est encore Gibb ici qui a tué un homme, Marash Aga. Après y avoir tiré dessus, en plus, le sergent-chef a placé une kalachnikov près du cadavre pour maquiller, dans le fond, le crime. Le troisième meurtre, c'est en mai. Là, c'est l'armée secrète des tueurs qui ont abattu un homme à la grenade et au fusil. Cet homme-là, il s'appelait Moula Abdad. Donc, ça, c'est la première partie du contexte, donc les meurtres en tant que tels, mais il y a la suite, en fait. Donc, les restes humains comme trophées de guerre. En fait, c'est que des restes humains ont été prélevés sur les cadavres de leurs victimes et ont été retrouvés chez deux des accusés, soit Calvin Gibb et Michael Wagon. Gibb avait conservé des os de doigts et de jambes, ainsi qu'une dent, tandis qu'on a retrouvé un crâne humain trônant sur une bibliothèque chez Michael Wagon.
Rien de moins.
Rien de moins. C'est assez... non, moi, je suis sans mots. Donc, dans le fond, pourquoi cette affaire-là a été révélée au grand jour? Oui, la divulgation des documents, mais avant, ce qui a mené à ça, c'est qu'il y a un soldat qui est évidemment pas nommé, qui est resté anonyme, qui a dénoncé à la hiérarchie ses camarades parce qu'ils avaient fumé du hashish volé à des civils afghans. C'est comme ça que ça a commencé. Puis là, évidemment, vous savez que c'est important, l'esprit de corps dans l'armée, etc. Donc, dans le fond, les camarades qui ont été « stoolés », entre guillemets, donc, dans le fond, ont battu ont vraiment passé à tabac le soldat en question qui les avait dénoncés pour lui apprendre à se taire, dans le fond, hein, pour le dresser. Sauf qu'il a tellement été battu, en fait, que ça a attiré justement la curiosité des supérieurs, puis lui, de toute façon, a décidé aussi de rapporter l'agression à ses officiers, puis c'est justement lors de sa déposition sur ce cas-là devant les enquêteurs que finalement il a tout révélé. Puis il a révélé l'existence de l'équipe de tueurs qui était pas mal connue de beaucoup de monde finalement dans l'armée, parce qu'évidemment, tout se sait. Donc maintenant, c'est quoi qui se passe? C'est quoi les suites? Bien, il y a 5 militaires qui ont été arrêtés en juin, les 5 militaires dont je t'ai parlé. Évidemment, lui qui est un peu en chef, là, le sergent-chef Gibbs, lui, il a nié évidemment toutes les accusations qui sont contre lui. Il y a 7 autres soldats aussi qui ont été arrêtés en août dernier. Ils sont accusés d'avoir couvert les crimes de leurs camarades, d'avoir agressé le soldat qui a mis les enquêteurs sur la piste. Là, évidemment, bon, ce qui suit, c'est tout ce qui se passe. C'est pour ça aussi que ça va être quelque chose à suivre. J'ai bien l'intention de vous faire minimalement un suivi là-dessus, encore une fois, pour sortir de l'information spectacle. Parce que les accusations vont être examinées par un jury militaire, qu'on sait souvent un jury d'exception. Hein? Donc, il va décider s'il y a suffisamment de preuves pour un procès en cour martiale, mais quand même, les meurtriers présumés risquent la prison à perpétuité, voire la peine de mort. C'est sûr que là, c'est sorti publiquement. Donc, ça, c'est sûr que ça joue pas en faveur des soldats, ça joue plus en faveur de la justice, mais enfin, on verra. Donc, c'est 2 dossiers à suivre, en fait, certainement, dont on va vous reparler.
Puis à chaque fois qu'il y a des cas comme ça, ben c'est la même chose que dans les cas de violence. On se demande toujours, pour une histoire révélée au grand jour, combien il y en a qui sont efficacement couvertes par les institutions de l'armée. Dans les 2 cas, c'est très, très, très préoccupant parce que c'est comme les enquêtes de la police sur la police. Hein,
c'est souvent un
essai de relations publiques, dans le fond, pour pointer certains mauvais éléments dans le corps, mais dans le fond, ça cache quelque chose qui est inhérent, là,
qui est structurel, en fait.
C'est ça, dans la structure même de l'armée qui donne tellement de pouvoir, justement, à ces jeunes-là, puis tellement de... tout dans la structure hiérarchique, comment les gens peuvent évoluer mentalement puis psychologiquement là-dedans. Là.
Exactement. Puis d'ailleurs, tu sais, le soldat qui a dénoncé ses pères qui fumaient du hashish, juste ça, c'est assez surprenant. Puis ça devait vraiment être un jeune nouveau très vert parce que c'est pas quelque chose que tu fais non plus. Parce que ce qu'on t'apprend, c'est penser au code, à l'armée avant tout, à ton crew, entre guillemets, à ton groupe de militaires, etc. Puis sûrement que dans un autre cas, dans le fond, s'il n'y avait pas eu la piste de l'équipe de tueurs secrets, que là, à un moment donné, c'est comme trop gros, là ça n'a pas de bon sens, mais juste le fait de délater à la délation, c'est entre soldats, c'est pas quelque chose du tout qui est encouragé, là, puis je suis pas certaine que les supérieurs auraient tant que ça dit « t'as bien fait de nous dire qu'est-ce qui est pire entre fumer un peu de hache, voler de toute façon à des méchants terroristes, entre guillemets, ou trahir le code ». C'est une question qu'on pourrait demander à un soldat si on l'invitait à une entrevue à l'émission. On sait jamais ce qui pourrait arriver. Donc, si tout va bien, on devrait entendre dans les prochaines secondes « Celebrate the Grass Widow ».
sur les ondes de CKIA FM, vous écoutez Ainsi squat-t-elle et on poursuit en nouvelles avec Hélène, une nouvelle un peu plus sur le plan national cette
oui,
fois.
Oui, absolument. Alors, je suis tombée là-dessus. C'était fort intéressant parce qu'en ce moment, on discute beaucoup de la question du registre d'armes à feu. Hein? Vous êtes au courant qu'il y a eu un projet de loi privé qui réclame l'abolition du registre des armes à feu qui a été déposé aux communes. Quelle surprise! Un projet de loi privé, on commence à être habitué. Ils en ont vraiment fait leur marque de commerce, les conservateurs, depuis leur arrivée au pouvoir. Un. Donc, oui, et deux, par une députée conservatrice. J'ai nommé Candace Opener. Et donc, qui sera débattu et surtout, évidemment, il y a des groupes, entre autres, comme la Marche mondiale des femmes, justement, qui publie des articles sur la question. Et il y en a un très intéressant que j'ai trouvé parce que moi, j'aime toujours ça être au courant de pas tant les grosses têtes, parce qu'à un moment donné, les conservateurs, c'est comme un peu facile, mais c'est intéressant de savoir les groupes qui grenouillent et qui s'activent dans l'ombre avec beaucoup de budget et beaucoup de moyens logistiques et moyens de diffusion et de propagande. Et j'en ai trouvé un que je connaissais pas aujourd'hui, dont je vais vous parler. Et c'est le NRA, qui est très actif en plus, qui est une organisation américaine et qui est très... Donc, cette organisation-là est très active dans le débat qui se passe au Canada en ce moment. Donc, c'est quoi le NRA? C'est le National Rifle Association. Donc, c'est un puissant lobby américain qui milite pour une réduction du contrôle des armes à feu. Puis, selon les documents qui ont été obtenus par les services anglais de NASA Incorporated, non, c'est pas vrai, de Radio-Canada, NRA serait activement impliqué dans la campagne pour l'abolition du registre canadien des armes à feu. En fait, l'organisation a prêté une assistance à la fois logistique et tactique à des organismes canadiens qui militent contre le registre. Quel organisme? Des exemples. Mais d'abord, on a l'Institut canadien pour une action législative qui, dans le fond, est la branche militante de l'association plus large qui est de Canadian Shooting Sport Association. Et oui, vous avez bien entendu. D'ailleurs, sports, parce qu'il y a plusieurs manières de tirer. Hein? Donc, le Canadian Shooting Sports Association, c'est un des gros joueurs dans la lutte qui se mène en ce moment, là, la lutte des... C'est ça, des micros, des discours qu'on tente de diffuser. Donc, c'est un des gros joueurs dans la lutte qui joue présentement sur la question du registre des armes à feu. Depuis 1998, en fait, cette association-là a fait pression sur Ottawa pour l'abolition du registre, purement et simplement. Il y a Tony Bernardi, qui est-il? C'est le directeur exécutif de, justement, l'Institut canadien pour une action législative. Puis lui, il a donné une entrevue au Canadienne, hey, c'est tout des... Juste les noms, on comprend de quoi on parle. C'est une entrevue à la revue qui se nomme Canadian Firearms Digest. Donc, il a donné cette entrevue-là en 2001, où il a affirmé, entre autres, que la NRA avait fourni une énorme aide logistique à son organisation, donc il s'en cache même pas, puis que d'ailleurs, malgré les règlements internes de la NRA qui l'empêchent de fournir de l'argent à d'autres groupes, l'organisme américain leur a fourni tout le reste gratuitement. Donc, dans le fond, leur a pas donné de l'argent à proprement dit, mais des informations, etc., du matériel de promotion qui vaut cher. Autre action que le NRA a fait, à part aider nos petits groupes à nous, Canadiens, qui sont sur cette question-là, il a dépensé environ 100 000 $ pour produire une espèce d'infopublicité télévisée appelée « The Canadian Situation », qui a été diffusée sur les ondes de National Network aux États-Unis. En gros, dans ce document vidéo-là, on mettait les propriétaires d'armes en garde contre le registre canadien d'armes à feu. Un peu le même genre de campagne qu'il y a eu par rapport au système de santé, dans le fond. Et donc, en gros, le message du vidéo, c'était « Le registre canadien des armes à feu, c'est une conspiration du gouvernement pour saisir toutes les armes en circulation et laisser les citoyens sans moyen d'assurer leur défense. » Hein, comme si, c'est drôle parce que c'est vraiment reprendre l'espèce d'argumentaire, entre autres, qui avait été qui a été prôné par les sudistes, qui a été prôné par des personnes qu'on est peut-être un petit peu plus proches de manière politique, comme le Black Panther Party, entre autres, qui disait, c'est « the right to defend yourself ». Mais je suis pas certaine que les personnes comme les chasseurs ou qui chassent même pas pour se nourrir, premièrement, ou autres personnes au Canada qui possèdent des armes, je suis pas sûre que c'est vraiment pour se défendre, ou en tout cas, si on peut appeler l'attaque une défense, c'est à voir, là. Mais on sait que, dans le fond, une des idées, justement, qui est derrière la question du registre d'armes à feu, c'est la question de la réduction, justement, ou en tout cas de la prévention des crimes avec armes qui sont quand même majoritairement souvent faits contre les femmes, est-il utile de le rappeler? Donc, voilà pour leur petite vidéo promotionnelle. Puis, c'est intéressant aussi de savoir que, bon, oui, un, ils aident des organisations canadiennes sur cette question-là. Deux, le petit vidéo. Mais trois, en fait, c'est que ça fait longtemps qu'ils s'activent sur cette question-là aussi. En fait, le National Rifle Association n'a pas ménagé ses efforts au Canada pour militer contre le registre des armes à feu. C'est le lobby américain qui est le plus actif au Canada depuis une décennie, puis c'est justement pour ça que je voulais vous en parler. Il y a entre autres l'ex-procureur général de l'Ontario, bon, c'est rare qu'on cite des avocats, mais on va le faire ici parce que c'est intéressant, avec Michael Bryan, qui dit que quand lui a été élu en 99-2010, ça fait plus de 10 ans, le NRA, le monde le savait déjà. Les gens qui travaillaient sur la question du registre des armes à feu les connaissaient parce qu'ils étaient déjà assez impliqués avec leurs déclarations pour que les gens les remarquent. Ils ont aussi, dans le fond, participé publiquement à la lutte contre le registre des armes à feu, pas juste en arrière. Deux exemples. D'abord, il y a les présidents de cette organisation-là en 2000. Donc déjà, c'est ça, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur la question. Charlton Heston et Sandra Frohman, qui ont prononcé des discours prônant l'abolition du registre, entre autres en Colombie-Britannique et en Ontario. En 2005, il y a également Glenn Caroline, qui est une des stratèges de cette organisation-là, qui a été envoyée au Canada à la veille des élections fédérales afin de conseiller et de former des groupes de militants opposés au registre. Donc, c'est toujours intéressant de savoir que c'est ça. C'est pas pour rien que tout à coup, il y a des idées qu'on entend parler ou quand on entend des communiqués de presse, tout à coup, des idées qui reviennent. Moi, je trouve ça toujours intéressant de les nommer, ces lobbies-là, parce qu'ils existent, puis ils sont beaucoup moins puissants si on sait qu'ils existent, justement. Donc, ça fait le tour pour mes petites nouvelles. On va continuer en musique avec Norman is Norrible de Modette.
Les ondes de CKIA FM, c'est toujours Ainsi soit-elle cette semaine, votre magazine féministe et libertaire favori. Ce soir, si vous nous écoutez en direct, mardi le 14 septembre, c'est le 4e anniversaire du bar coop L'Agité. On en a parlé un petit peu la semaine passée. Et voilà, donc on va en parler un petit peu plus avant. Et alors là, maintenant, je change de chapeau et je deviens interviewée.
Absolument. Tu es mon invitée, Evelyne Dumas-Dubuc, qui est présentement, rappelle-nous ton poste à la JT.
Officiellement, je suis serveuse d'abord et avant tout et membre travailleuse. Et sinon, je suis coordonnatrice à la vie associative. Surtout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui.
Parfait. Mais d'abord, commençons parce qu'on sait que Squatter, c'est une émission qui est écoutée par plusieurs personnes de par le monde et c'est pas tout le monde qui a eu la chance de mettre les pieds à la JT. Donc la JT, qu'est-ce que c'est?
La JT, c'est d'abord un bar spectacle. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup d'événements de nature essentiellement musicale, culturelle, mais aussi politique, communautaire. Donc on a à la fois des spectacles de hardcore, de heavy metal, de hip-hop, on a du jazz, des improvisations de jazz, on a du body painting. Donc des conférences, des projections de films, des soupers communautaires, la poésie, voilà. Donc c'est un lieu pour créer l'événement, d'abord. Mais c'est aussi que ce qui rend ce bar-là, cet endroit-là différent des autres bars ou des autres lieux culturels à Québec, c'est que c'est une coopérative de solidarité. Ça mange en hiver? c'est une coopérative où il y a trois types de membres. Donc, parce que c'est une coopérative, c'est une entreprise qui appartient à ses membres. Mm-hmm. Donc, au lieu d'être une société par action, par exemple, qui appartient à ses actionnaires et où un actionnaire a plus de pouvoir s'y investit plus d'argent. Dans une coopérative, c'est un membre, un vote.
Tout le monde est égal.
Exact. Dans une coopérative de solidarité, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a dans la structure une cohabitation de trois types de membres. Il y a les membres travailleurs et travailleuses, dont je fais partie, donc les personnes qui font le service au bar, aussi les personnes qui font l'entretien ménager et les personnes qui font le son. Donc, qui sont techniciens de son. Les personnes qui font de l'administration aussi, qui sont aussi serveurs et serveuses, comme moi, qui ai une petite tâche de bureau, on est toutes membres comme travailleurs. Il y a aussi des membres utilisateurs, utilisatrices, que ce soit des groupes communautaires ou des producteurs d'événements, que ce soit des individus. Ça, c'est toutes les personnes qui souhaitent utiliser l'espace, donc utiliser le lieu pour produire leurs événements. On pense par exemple à la librairie sociale autogérée La Page Noire, qui est notre voisine et dont on parle souvent. Ben, ils sont membres, comme ça, ils organisent différents événements, comme par exemple le cabaret du 1er mai. Il y a le journal Droit de parole aussi qui est membre, donc un journal communautaire qui a plusieurs années dans son histoire
plus
et dans la base.
35 ans où j'ai travaillé tant qu'à mélanger les chapeaux.
voilà. Donc, eux, ils sont membres et ils organisent régulièrement les lancements de leur journal dans la coopérative. Et le troisième type de membres, c'est les membres de soutien, donc nos voisins, nos amis, nos parents, toutes les personnes qui trouvent que c'est un projet qui a de l'envergure, que c'est un projet qui mérite d'être soutenu. Donc, pour ces trois types de membres-là, c'est une part sociale de 20$ pour les individus ou cinq parts sociales de 20$, donc 100$ pour les groupes. Et vous êtes membre à vie, vous avez le pouvoir de prendre les décisions avec les autres membres en assemblée générale ou de vous impliquer dans un comité. Mais ça, on va en parler un peu plus, là, dans la mission puis dans le mode de fonctionnement.
Puis 4 ans, c'est vraiment très intéressant. Moi, ça me rafiche la mémoire, même si je suis membre, je viens de me rappeler de soutien. Ça a commencé comment tout ça il y a 4 ans, ce beau projet-là? Et sûrement plus de 4 ans.
Oui, en fait, ça a commencé, aux alentours de 2004, essentiellement autour d'une bière, essentiellement entre militants et militantes étudiantes qui étaient à l'université à ce moment-là et qui militaient pour un monde différent, disons-le. Donc, beaucoup des militantes du mouvement étudiant, mais aussi du mouvement anticapitaliste et qui souhaitaient faire quelque chose d'un peu plus concret. Il y a toujours, disons, être contre ou organiser des manifestations. Voulaient construire quelque chose. Et un des modèles qui semblait très intéressant à l'époque pour ces gens-là, c'était l'autogestion. Donc, l'autogestion comme concept, c'est quelque chose qui est géré collectivement par les gens qui sont concernés par le projet. Donc, c'est un modèle qui peut s'appliquer à une société entière comme qui peut s'appliquer à plus petite échelle, à un collectif ou, dans le cas qui nous intéresse ici, à une coopérative. Donc, ils voulaient mettre sur pied ce laboratoire-là d'autogestion. Il y avait d'autres exemples dans le monde, comme par exemple l'espace noir que certains militants avaient visité en Suisse, qui est un bar, une bibliothèque et un cinéma militant qui essaie de fonctionner en autogestion depuis plus de 20 ans.
D'ailleurs, lors de la première édition de la journée autogérée à Québec, en 2003, si je ne me trompe pas, on avait des gens de l'espace noir qui étaient venus pour nous parler de leur expérience.
Donc, un peu inspiré par ces expériences-là, par aussi d'autres expériences de centres sociaux autogérés dans différentes parties du monde, les expériences de squat aussi également, où les choses sont prises en charge collectivement. Donc, c'était un peu quelque chose comme ça qui voulait être mis sur pied. Puis, les personnes, pour choisir, dans le fond, qu'est-ce qu'ils allaient faire en autogestion, pourquoi ils ont choisi un bar coop, un café-bar à l'époque, c'est qu'ils partaient de deux constats. Le premier étant que les groupes communautaires, quand on venait pour faire des événements de financement, c'était toujours un peu compliqué. Il fallait aller chercher un permis d'alcool, louer un kit de son, trouver une salle, avoir du personnel. Donc, ils voulaient un peu offrir une formule clé en main pour organiser les événements essentiellement des groupes communautaires, autant des associations étudiantes ou pour financer des projets, des projets de voyage ou n'importe quoi.
Parce qu'on n'avait pas d'espace, en fait.
Exact. Yeah. Cet espace-là n'existait pas. Ces événements-là se promenaient d'un endroit à l'autre, d'une salle communautaire à l'autre. Et l'autre constat, c'était le constat de la transformation des bars de quartier, des bars où les gens avaient l'habitude des bars que les gens avaient l'habitude de fréquenter, qui se transformaient sous leurs yeux un peu avec la pression de la gentrification, les gens un peu plus avec un peu plus de moyens que les bars voulaient attirer et qui changeaient un peu leur formule, et les gens qui fréquentaient ces établissements-là avaient juste
plus leur place,
se reconnaissaient plus dans ces bars de quartier-là. Et donc, en choisissant une formule, un bar coop comme ça, on voulait donner la parole et le pouvoir aux gens qui fréquentaient l'établissement, aux gens qui s'intéressaient au projet, d'en définir essentiellement les grandes orientations.
Ça nous donne... Oui, vas-y, continue, excuse.
Ben c'est ça. Essentiellement, après, il y a eu, en 2004, l'élaboration du projet.
Les demandes de financement.
On a élargi l'équipe pour essayer d'avoir des gens qui avaient des talents dans différents domaines, autant la gestion, autant tout ce qui concerne les bars, autant tout ce qui concerne plus le milieu du spectacle. Puis en 2006 est venu l'achat de la bâtisse, l'ancienne taverne Dorchester, qui était située à l'endroit où est situé l'AJT présentement, donc au 251 rue Dorchester, en plein quartier Saint-Roch, un petit peu limitrophe du quartier Saint-Roch, assez proche de Limoilou. Et il y a eu l'ouverture, la fondation de la coopérative, l'élaboration de politiques, la formation de nouveaux comités. Et c'est comme ça que ça continue depuis 4 ans.
Puis ça nous mène un petit peu à la mission. On a commencé à en parler par les constats, mais la mission en tant que telle, ça serait quoi de l'ajouter?
Bien, c'est une mission qui est assez ambitieuse.
Et complexe.
Oui, en plus de fournir du travail à ses membres, c'est une mission qui